Merci beaucoup à mon épouse aussi qui m'accompagne et sans qui, en ce moment, je serais encore en train de chercher la chair quelque part. Mais enfin, il y aurait peut-être eu quelqu'un d'autre hein, aussi. Mais voilà, le Seigneur nous conduit d'une manière qui est toujours étonnante et surprenante. J'aimerais vous proposer ce matin de lire un texte qu'on lit peut-être pas trop souvent le dimanche matin, mais dont les leçons m'ont beaucoup interpellé ces derniers temps. On va parler un peu de visibilité, je suis très bien placé pour en parler, et de choses invisibles aussi, vous allez voir. On lit ce texte dans 2 Rois, au chapitre 6, et je vous propose de lire les versets 14 à 20 ce matin. Le roi, il est question du roi de Syrie ici, le roi envoya à Dothan une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée pour le chercher, pour mettre la main sur lui. Ça, ce n'est pas écrit dans le texte, mais je le dis parce que ça peut servir pour comprendre. Celui-ci pria l'Éternel en disant, « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats, « Vous n'êtes pas sur le bon chemin, c'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Samarie se trouve en Israël. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux. Et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Jusque-là, notre texte. Ce texte, il met merveilleusement en évidence que dans la vie, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Vous connaissez l'expression « moi, je ne crois qu'à ce que je vois ». Ce texte insiste clairement sur le fait que la réalité est souvent différente de ce que moi, je parviens à en percevoir. Considérant ces quelques versets, sans toutefois laisser tomber le contexte de ces événements, ce contexte est décrit dans les versets précédents, 8 à 15, et je le résume. Le roi de Syrie est en guerre contre le roi d'Israël, qui est aidé ici par celui qu'on appelle l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, qui a le pouvoir de révéler au roi d'Israël toutes les manœuvres du roi de Syrie, au point que le roi de Syrie se pose des questions concernant un éventuel traître parmi les siens. L'un de ses officiers va lui dire et fait allusion à Élisée et à tous ses pouvoirs qui déjouent tous les plans du roi de Syrie. En conséquence, et étant donné cette situation, le roi de Syrie va partir à la recherche d'Élisée et va finir par le trouver à Dothan, dans une localité où Élisée s'était momentanément réfugié, où se trouvait à ce moment-là. Dans les versets 15 à 20, on a en fait affaire à deux personnes qui voient toutes les deux, mais qui ne voient pas la même chose. Et ça, c'est pas trop surprenant. Nous voyons tous des choses différentes. Vous voyez tous des choses différentes. Moi, c'est encore différent, je ne vois rien du tout. Mais le fait de pouvoir voir définit probablement d'emblée qu'il y a, s'il y a des choses qu'on voit, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas voir, des choses invisibles que nous ne savons pas percevoir. Et quand nous réfléchissons à nos cinq sens que Dieu nous a donnés, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, on peut partir de l'idée qu'il existe forcément aussi des choses qu'on n'arrive pas à sentir, à voir, à entendre. En effet, nos cinq sens nous permettent certes de percevoir, mais pas forcément de tout percevoir. Alors, pour percevoir ce que normalement on ne perçoit pas, les hommes ont dû créer des appareils qu'on appelle des appareils auxiliaires, pour voir ce qui est tout petit, par exemple, ou pour rapetisser ce qui est trop grand, ou pour entendre les choses qu'on n'entend pas normalement, les infrasons, les ultrasons qui ne nous sont pas perceptibles. Alors on a créé des machines. Pour aider les aveugles à se déplacer, comme ils ne voient pas, on a envisagé un chien guide, et alors on a élevé des chiens pour les aider à le faire, ou bien on a envisagé de recourir à un bâton, une canne blanche, qui leur sert pour éviter un certain nombre d'obstacles. Et comme ça, l'homme a inventé toutes sortes de choses qui lui permettent de pallier à des manquements. Pour redonner ce qui est écrit, par exemple, on a eu recours à une synthèse vocale qui permet d'écouter au lieu de lire avec les yeux. Ou alors autrefois, déjà, on avait trouvé le braille qui permettait de lire au moyen du toucher au lieu de lire au moyen des yeux. Mais revenons au cas du serviteur d'Élisée, ici présent. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une troupe nombreuse qui entoure la ville où il se trouve, avec des chevaux et des chars. Et qu'est-ce que ça lui inspire ? Qu'est-ce que lui inspire ce qu'il voit ? Ça lui inspire, nous est-il dit dans le texte, de la peur, de la perplexité, exprimée d'une part par une exclamation « Ah, mon Seigneur !» et d'autre part par une interrogation « Qu'allons-nous faire ?» Si ce serviteur avait de l'espérance jusque-là, il n'en a plus après ce qu'il a vu. Et souvent, nous aussi, nous nous trouvons confrontés un peu à ce genre de situation, à des moments où nous n'avons que cette question à la bouche et dans la tête. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et si nous sommes chrétiens, nous rajoutons « Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ?» Si dans cette situation, le serviteur du prophète se confie en lui-même, il n'a aucun pouvoir, donc plus non plus aucun espoir, rien à proposer. Et ce qui va en plus le paralyser, c'est la peur. Nous avons certainement aussi déjà été confrontés à ce genre de situation, de peur, de perplexité, de questionnement, devant des questions, devant des décisions que nous ne savons pas prendre. Nous aussi, si nous cherchons en nous-mêmes des moyens de nous en sortir, on n'est pas aidé. Dans des circonstances pareilles, nous serons déçus et il nous restera la peur, la perplexité et une absence totale d'espoir. Si par contre, le serviteur se confie en son maître, en l'occurrence le prophète ici, son maître va le rendre attentif à la puissance de Dieu. Et il commence par lui donner un conseil, « N'aie pas peur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Le serviteur sait que son prophète est un visionnaire, mais enfin, voilà. Pour le serviteur, cet argument, c'est gratuit. Et le prophète le sait bien. Et parce qu'il le sait bien, Élisée va prier pour son serviteur. Et il dit, « Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et aussitôt apparaît au serviteur une perspective toute différente. Il découvre toute la protection que l'Éternel accorde à Élisée, avec des chevaux et des chars aussi, mais des chevaux et des chars de feu. C'est donc bien Dieu qui a créé la vue et les yeux. Et c'est aussi lui qui peut ouvrir ou aveugler les yeux de notre cœur aussi. Peut-être passons-nous par une période où, après avoir vu clair, tout d'un coup on a l'impression de n'y voir plus rien concernant notre situation particulière, un problème spécial, quelque chose qui nous contrarie, le plan ou l'intention de Dieu pour nous. Et ce problème peut être personnel, individuel, ou quelquefois même ce problème peut être collectif et tout un groupe, une église par exemple, ne sait plus comment s'orienter dans telle ou telle situation pour rester dans le plan de Dieu, pour être assuré de suivre la bonne direction. Ça arrive. En tout état de cause, ne détournons pas les yeux de notre Dieu. Il peut et il va nous éclairer et nous donner suffisamment de lumière pour que nous puissions progresser sur le chemin. J'aimerais vous chanter un chant pour faire une petite interruption, mais pas seulement pour ça. Il s'appelle « Brouillard ». Et c'est un chant qui essaie de décrire un peu cette peur, cette perplexité qui va jusqu'à l'abattement, quelquefois jusqu'à la dépression, à nous faire désespérer totalement d'une situation. Et ça arrive même aux chrétiens. Alors que pouvons-nous faire dans cette situation? Je vous chante ce chant « Brouillard ». Des jours comme ça où rien ne paraît clair. Il y a tout qui s'en va et moi qui désespère. Que m'apporte la vie, faut-il encore y croire? Quand ma seule compagnie c'est un épais brouillard. J'ai peur et je ne sais plus où je peux aller. Je ne vois devant moi que le bout de mes pieds. Parfois une éclaircie me laisse un faible espoir. Très vite, il s'enfuit et tout redevient noir. Je suis en équilibre sur une corde raide. J'espère en un secours, mais ne vois aucune aide. Une force invisible à terre veut me jeter. Comment vais-je tenir? Où puis-je m'accrocher? J'ai mal, je vais tomber, je n'ai plus de repères. Ça me reprend, je pleure sur ma misère. Le fardeau devient lourd et le vide m'attire. J'ai froid, je suis perdu. Qui peut me retenir? S'il y a des jours comme ça, rien ne paraît clair. Et s'il y a tout qui s'en va, si même je désespère. Tu me dis de placer toute ma confiance en toi. D'avancer sans savoir. Et de garder l'espoir. Tu me dis de placer toute ma confiance en toi. D'avancer sans savoir. Et de garder l'espoir. Malgré ce brouillard qui m'entoure de toutes parts. Qui m'empêche de voir. Mais précisément, Dieu ne nous montre pas toujours la réalité telle qu'elle est, comme il l'a fait pour ce serviteur grâce à la prière d'Élisée. Et quand Dieu ne le fait pas, Eh bien, il fait directement appel à notre foi, un peu comme c'est exprimé dans la fin de ce chant. Lorsque nous sommes dans des difficultés qui nous paraissent insurmontables, Dieu est toujours là, Dieu est toujours présent. Est-ce que nous ne voyons pas la délivrance, la protection du Seigneur, toujours présent à nos côtés, sa sollicitude, son amour dans certaines circonstances? Eh bien, il nous demande de le croire. Et Job est l'exemple par excellence d'une telle mise à l'épreuve de la foi. Pendant longtemps, il n'a pas compris pourquoi il était éprouvé de cette manière. Mais Dieu ne lui a jamais répondu à ses pourquoi. Pourtant, il lui a fait comprendre combien il était le Tout-Puissant. Et nous le lisons dans tous les derniers chapitres du livre de Job, où nous voyons Job confronté à la majesté, à la grandeur du Créateur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Job, finalement, l'a accepté. Et Job l'a compris. Les versets 18 à 20 du texte que nous avons considéré montrent aussi que l'opération inverse peut se produire également. L'opération qui consiste à aveugler, parce que les Syriens ont été aveuglés suite à la prière de l'homme de Dieu. Et puis ensuite, Dieu, sur la prière du prophète, leur a à nouveau ouvert les yeux lorsqu'ils se trouvaient à Samarie, potentiellement prisonnier du roi d'Israël qui, d'ailleurs, a failli être cruel et dur avec eux. Mais grâce à l'aveuglement qu'ils ont expérimenté, les Syriens ont pu faire l'expérience de toute la bonté de Dieu qui, au lieu de les livrer aux Israélites, leur a donné à manger et les a fait renvoyer chez eux. Grâce totalement imméritée pour eux et qui nous rappelle l'immense grâce dont nous bénéficions chaque jour de notre vie. C'est donc bien Dieu qui donne la vue ou qui empêche de voir, mais en fait son but n'est pas de nous laisser nous débrouiller tout seuls dans les ténèbres, mais bien de nous entraîner vers la lumière. Jésus, envoyé de Dieu pour nous sur cette terre, est venu faire tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, et cela par pur cadeau, par pure grâce. Il est venu régler le problème gravissime du péché, de notre séparation d'avec Dieu, qui obscurcit toute chose. Et c'est ce Jésus qui est venu, qui affirme dans son enseignement « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » C'est bien beau ces paroles. C'est bien beau d'avoir de la lumière. Mais quand on ne voit pas, comment est-ce qu'on peut faire? Ou quand on n'y voit plus? Par sa présence, Jésus veut être la lumière de notre vie. J'aimerais vous chanter un chant de Louise encore, mais que vous connaissez probablement moins, qui s'appelle « Un pas à la foi », pour nous encourager à prendre la bonne direction et à ne pas tout vouloir au même instant, mais vraiment au fur et à mesure, un pas à la fois. Malgré les incertitudes, le chemin me semble parfois si sombre. Mais je ne suis pas seul, même aux moments les plus rudes. Ma lumière est au-dedans, Jésus-Christ, tu vis en moi. C'est toi qui marches devant, toi qui m'éclaires la voie. Avancer et me laisser guider. Oh, un pas à la fois. Mais dès que je ressens l'obscurité, je commence à douter, à m'éloigner de son cœur. C'est pourquoi je garde les yeux fixés sur toi, mon sauveur qui m'aime, c'est toi qui me rends vainqueur. Ma lumière est au-dedans, Jésus-Christ, tu vis en moi. C'est toi qui marches devant, toi qui m'éclaire la voie. Je peux avancer, me laisser guider. C'est toi qui marches devant, toi qui m'éclaire la voie. Je peux avancer, me laisser guider. Ma lumière est au-dedans, Jésus-Christ, tu vis en moi. C'est toi qui marches devant, toi qui m'éclaire la voie. Je peux avancer et me laisser guider. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, de cette lumière ? Cette lumière ne s'impose pas à nous, tout comme Jésus aussi ne veut pas s'imposer à nous. Alors il y a plusieurs options, surtout deux. On peut soit se tourner vers elle, chercher à l'utiliser, en bénéficier, et puis, autre possibilité, on peut lui tourner le dos. La lumière, en tous les cas, révélera où nous en sommes et aussi qui nous sommes. Alors évidemment, cette lumière peut s'avérer désagréable parce qu'elle va aussi révéler précisément la situation de notre vie, de notre cœur, des choses qui peuvent nous séparer de Dieu, comme le péché qui pourrait avoir une place en nous encore et mettre de la distance entre nous et le Seigneur. C'est donc avant tout pour nous finalement une question d'orientation. Nous pouvons nous tourner vers la lumière ou nous détourner de la lumière et regarder ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a un tas de choses qui existent autour de cette lumière pour nous donner facilement la tendance à regarder ailleurs. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il y a un encouragement très vif que j'aimerais vous laisser pour conclure et qui se trouve au chapitre 12 et au verset 2 de cet Épître. Et je vous laisse ce verset qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Il y a comme deux étapes là. Jésus nous ouvre le chemin de la foi. Si on a du mal à croire, alors il faut déjà se tourner vers la lumière qui va être pour nous, très certainement, source de foi et qui, dans une deuxième étape, va aussi viser à la porter à la perfection. La perfection n'est pas de ce monde, c'est vrai, mais nous sommes appelés à y tendre. Ne l'oublions jamais, c'est le Seigneur qui rend visible certaines choses invisibles et qui fait le contraire aussi. Mon album s'appelle « Point de vue » et j'aimerais maintenant vous chanter un dernier chant qui s'appelle aussi « Point de vue », c'est le chant-titre de l'album. Et pour que vous ayez un point de vue, Martine Bachet nous a créé un support visuel qu'on a trouvé remarquable et qu'on aimerait vous proposer en même temps. Donc je vous chante Point de vue, qui est un, sous une forme récréative, mon témoignage personnel. Merci. Tout petit. On peut recommencer ? Merci. Désolé. Mes objectifs étaient d'apprendre à tenir sur un vélo. Moi qui ne peux pas voir, comment enfin pouvoir faire comme les autres sans tomber sur le dos. Mais un jour, j'ai pu réaliser que pour rester en équilibre, fallait ôter la béquille, se mettre à pédaler pour parvenir à se déplacer. Moi je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. Les jours, je dois prendre le train et tenter d'arriver à l'heure au bureau. Sur qui pourrais-je compter, qui va m'accompagner pour affronter la jungle des travaux? Et tout à l'heure, je dois voir un ami que je n'ai pas revu depuis mon enfance. Comment saurais-je que c'est lui? Qu'aurais-je comme garantie? Pas d'autre choix que de faire confiance. Moi je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Et si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. On nous dit que la terre est ronde, et moi, sans le voir, je dois bien le croire. Mais comment accepter que toutes les merveilles de ce monde soient le simple produit du hasard? Voilà pourquoi, moi je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. Moi, je dis à ceux qui ont besoin de voir pour croire que bien souvent, le plus important n'est pas ce qu'on peut voir. Si nous commencions enfin à croire pour voir un peu plus clair, je suis sûr que pourrait mieux s'expliquer plus d'un mystère. Alors, au lieu de nous interroger tant et plus, si nous pouvions au passage écoutez peut-être un autre point de vue. Heureux tous ceux qui croient sans avoir vu. Voilà, merci pour ces applaudissements. Gloire au Seigneur et que le Seigneur vous bénisse et vous aide. Et vous contribuez à votre progression. Tournons-nous tous vers la lumière, alors que nous avons tant d'autres choses qui peuvent attirer notre attention. Et gardons la bonne direction avec le Seigneur. Et il nous accompagnera, il nous aidera, et il vous soutiendra, j'en suis convaincu.
Un grand merci pour ce temps passé ensemble, pour nous inciter aussi à voir comment Dieu voit les choses. Ce n'est pas forcément évident, mais c'est si important. Nous avions hier le séminaire sur l'homosexualité qui était donné par Philippe Anchaud. On était beaucoup moins nombreux que ce matin. Alors, si vous voulez l'écouter, il est disponible sur le site. Je vous laisse découvrir les annonces du programme à l'écran. Mardi, nous avons une réunion d'église. C'est donc le début du processus du vote concernant les mandats des anciens, donc mon renouvellement de mandat, et l'élection aussi de Pierrick. Ce sera donc un vote à bulletin secret, donc on va vous distribuer les enveloppes mardi. Il y aura encore 2-3 autres petits points du fonctionnement de l'Église qui seront abordés. Les 17-18 juin, c'est donc le week-end de la fête de la musique. Je crois qu'il y a un petit flyer que Pierrick nous a préparé pour cela. Donc on prévoit un concert ici le dimanche en fin d'après-midi. On aimerait aussi aller chanter le samedi, soit dans la commune, soit ailleurs. On attend une réponse. C'est important aussi de prier pour ça. La fête de la musique, c'est aussi l'occasion de chanter et de glorifier notre Sauveur, puis de parler de lui. Sinon, dans les nouvelles, donc un petit Justin est né dans la famille de Willy et Camille. Ouais, leur famille s'est agrandie. Sinon, des suites, donc dimanche passé, on avait prié pour la maman d'Axel, une amie de Paola. Alors, la maman d'Axel n'a malheureusement pas survécu des suites de sa rupture d'anévrisme. Donc, elle est décédée cette semaine. Et ses obsèques ont lieu vendredi. Merci à chacun, chacune d'avoir prié pour elle, prié pour cette famille. Et j'aimerais vraiment vous inviter à continuer de prier pour cette famille. C'est pas facile de perdre une maman. Voilà, prions pour le papa, l'ami de Paola. Je ne sais pas s'il a des frères et sœurs, mais prions vraiment pour cette famille et pour les remettre à notre Dieu. On veut continuer de penser aussi à ceux qui souffrent. On a eu des nouvelles d'Annelise. Annelise est toujours à Beau Séjour. Donc elle a eu une deuxième greffe de peau qui a pris, comme la première. Donc au niveau santé, ça va plutôt mieux. Elle aspire à une prochaine sortie qui a été plusieurs fois reportée. Et Annelise ne souffre plus. Et ça, c'est vraiment une réponse aux prières. Elle ne souffre plus, pour le coup, elle dort bien. Elle remercie vraiment chacune et chacun pour les prières. Mais elle soupire aussi de nous revoir, elle soupire de sortir de l'hôpital, enfin. Pour le coup, les visites lui font énormément de bien, énormément plaisir, donc n'hésitez pas, tant qu'elle est encore à Beau Séjour, c'est vrai que les journées à l'hôpital sont toujours longues, donc n'hésitez pas à l'appeler peut-être, et puis à lui faire un petit coucou, une visite, ça fait toujours du bien. Didier nous dit qu'il a eu une rechute au niveau infection pulmonaire. Donc c'est important de prier pour lui. Après 3 semaines de traitement, voilà, paf, c'est reparti. Donc remettons-les aussi avec Loredan dans nos prières. Que Dieu les accompagne et le renouvelle tout particulièrement Didier. Des nouvelles positives de Déborah, qui a passé un deuxième IRM pour son genou. Et le radiologue a constaté que le ligament croisé postérieur, donc celui qui était déchiré, est en cours de cicatrisation. Il a même demandé si le ligament avait été bien rompu complètement, tellement la cicatrisation se fait bien. Le miracle est donc bien là, car oui, ce ligament était bien rompu. Il y avait même des petits bouts d'os, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avaient été arrachés suite à l'accident. Et maintenant, il n'y a plus aucun fragment qui n'est visible. Donc, tout s'est remis en place. Dieu fait vraiment toutes choses belles en son temps. S'il n'y a pas d'autres nouvelles à partager, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore 2 versets dans Éphésiens 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.